Chapitre 78, où Ludovic prend la responsabilité. Les deux médecins s'arrêtèrent dans l'antichambre. Il était impossible de voir une plus vivante image de la routine et de la science. « Voulez-vous me faire l'amitié de me dire, mon jeune ami, demanda M. Pillois, pourquoi vous m'avez emmené ici ?»« Mais, répondit Ludovic, d'abord pour ne point fatiguer le malade par une discussion. » « Bon, puisque c'est un homme mort. Raison de plus, si c'est votre avis, pour ne pas l'exprimer devant lui. »« Ah, ça, croyez-vous donc, dit l'ancien chirurgien-major, que les hommes de notre génération soient des femmelettes comme le sont ceux de la vôtre. J'ai été là, monsieur, et je servais d'aide à l'arrêt quand il a coupé les deux jambes au brave Montebello. Il y a eu une discussion de 5 minutes pour savoir si on lui ferait l'opération ou si on le laisserait mourir sans le tourmenter davantage. Vous imaginez qu'on se soit caché de lui? Non, monsieur. Il prit part à la discussion comme s'il se fût agi d'un étranger, et je l'entends encore dire d'une voix aussi ferme que s'il eût crié en avant « Coupez, mordieu, coupez !»« Il est possible, monsieur, dit Ludovic, que lorsqu'on opère sur un champ de bataille au milieu de 15 ou 20 000 blessés, on n'ait pas le temps de se plier à toutes ces délicatesses qui, selon vous, méritent à notre génération le titre de femmelette. Mais nous ne sommes point ici sur un champ de bataille. Monsieur Gérard n'est point un maréchal de France comme le brave Montebello. C'est un homme fort abattu de sa position, ayant, à ce qu'il m'est apparu, du moins grande peur de mourir, et chez lequel l'imagination frappée peut, il me semble, agir plus fatalement encore que la maladie. À propos de maladie, vous me disiez, monsieur, que vous n'étiez pas du même avis que moi sur la maladie, c'est vrai. Et quel est votre avis? Que vous faites erreur, monsieur, en traitant le malade pour une gastrite. Comment je fais erreur? Oui. En supposant, je vous le répète, M. Gérard atteint d'une gastrite. Mais je ne suppose pas, monsieur, j'affirme. Eh bien, je crois, moi, le malade atteint d'un autre mal que celui que vous affirmez. Alors, vous prétendez, monsieur? À mon tour, je ne prétends pas, monsieur, j'affirme. Vous affirmez que M. Gérard n'est point atteint d'une gastrite. C'est la troisième fois que j'ai l'honneur de vous le dire. « Mais que diable voulez-vous donc qu'il ait s'il n'a pas une gastrite ?» s'écria le vieux chirurgien stupéfait. « Il a tout simplement une pneumonie, monsieur, » dit froidement Ludovic. « Une pneumonie? Ah, vous appelez cela une pneumonie ?»« Pas autre chose. Alors vous affirmez peut-être que vous allez le tirer de là. »« Oh, quant à cela, monsieur, je ne l'affirme pas, je me contente de l'espérer. »« Et peut-on connaître le remède souverain que vous allez employer ?» « Je vais y songer, cher confrère, si toutefois vous m'en donnez la permission. »« Comment donc, vous me demandez la permission de sauver mon plus vieil ami ?»« Je vous demande la permission de traiter un malade qui est à vous. »« Oh, je vous la donne 100 fois, 1000 fois, plût à Dieu que cela servît à quelque chose. »« Mais si vous voulez mon avis, je doute que le pauvre garçon voie le soleil de demain. » « Je vais donc tenter l'impossible, » répondit Ludovic, conservant toujours la même politesse et le même respect envers un médecin qui était son aîné par droit de naissance, sinon de science. « L'impossible est le mot, » dit le vieux chirurgien, ne comprenant pas cette déférence de Ludovic qu'il prenait pour de l'hésitation. « Maintenant, qu'avez-vous fait jusqu'ici, mon honorable confrère ?» dit Ludovic pour la forme. « J'ai pratiqué 2 saignées, posé les sangsues à l'estomac et mis le malade à une diète absolue. » Un sourire effleura les lèvres de Ludovic, sourire éclos bien plus sous la compassion que lui inspirait le malade que sous l'ironie que devait lui inspirer cette panacée universelle si forte à la mode à cette époque, les sangsues et la diète, cet autre sangsue de l'estomac. Les deux praticiens en étaient là dans la discussion quand quelques paysans, impatients du miracle qu'avait dû opérer la présence d'un second médecin, firent irruption dans l'antichambre du philanthrope de Vanvres. « Eh bien, crièrent-ils tous à la fois, va-t-il mieux? Est-il sauvé ?» Le vieux chirurgien, qui avait l'habitude de s'entendre crier ces mêmes paroles aux oreilles toutes les fois qu'il sortait de chez l'honnête M. Gérard, crut encore que c'était à lui qu'elle s'adressait. Mais hélas, si l'onde est changeante, et si la femme est plus changeante que l'onde, il y a une chose qui est 1000 fois plus changeante que l'onde et la femme à la fois, c'est la foule. Aussi, un des paysans qui avait le plus excité Ludovic à entrer dans la maison du bienfaiteur commun, répondit-il assez grossièrement au vieux chirurgien qui disait « Nous ferons ce que nous pourrons, mes amis, soyez tranquilles, et ce n'est point à vous que nous demandons cela. » Sans doute le digne monsieur Pillois, qui avait aidé son illustre ami Larrey à couper les deux jambes du brave Montebello, fit-il la même réflexion que nous sur la foule. Seulement, il la fit une seconde trop tard. Aussi s'en dédommagea-t-il en fronçant le sourcil et en formant presque, à part lui, le vœu impie que la science fanfaronne du jeune praticien reçut à l'endroit du malade un échec éclatant afin de lui faire partager cette somme de dédain que les villageois professaient maintenant pour lui. Un autre paysan s'adressa directement à Ludovic. « Eh bien, lui dit-il, faisant à la fois la demande et la réponse, « comment l'avez-vous trouvé? Il est bien mal, n'est-ce pas? « Il n'y a plus d'espoir, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda un second. « Il n'en reviendra point, n'est-ce pas, monsieur ?» dit un troisième. « Mes amis, répondit Ludovic, tant que le malade n'est pas mort, il faut avoir confiance, non pas dans l'art du médecin, mais dans la nature, et Dieu merci, monsieur Gérard n'est pas mort. » Ce fut un hurrah poussé par la foule. « Vous le sauverez donc ?» demandèrent 20 voix. « J'y ferai mes efforts, » dit Ludovic. « Oh, sauvez-le, sauvez-le, monsieur !» lui cria-t-on de tous côtés. À ces cris, Marianne avait entrouvert la porte de la chambre. « Que se passe-t-il donc ?» lui demanda le malade, que tout ce tumulte brisait. « Ne peut-on me laisser mourir tranquille ?»« Oh, monsieur !» dit la brave femme, « il ne s'agit plus de mourir !»« Comment ?» s'écria le malade, « il ne s'agit plus de mourir ?» Et ses yeux, qu'on eût cru éteints, lancèrent une double flamme. « Non, monsieur, le jeune médecin qui est venu, dites au paysan qu'il vous sauvera peut-être. »« Ah, peut-être, » reprit monsieur Gérard en laissant retomber sa tête sur l'oreiller. « En tout cas, Marianne, qu'il ne s'éloigne pas, au nom du ciel, qu'il ne s'éloigne pas !» Puis, écrasé par cet effort, il resta immobile, ne vivant plus en apparence que par l'espèce de sifflement que produisait son souffle en s'échappant de la poitrine. « Monsieur, messieurs, dit la garde malade, monsieur Gérard se trouve mal, on dirait qu'il va passer. » Ludovic rentra vivement, prit la main, tâta le pouls. « Ce n'est rien, dit-il, c'est une syncope causée par l'émotion. Du courage, monsieur. » Le malade poussa un soupir. Marianne avait toutes les peines du monde à empêcher la foule d'envahir la chambre. « Sans doute, dit le vieux médecin à son jeune confrère, vous n'allez pas vous borner, monsieur, à dire au malade du courage, vous lui ordonnerez quelque chose. « Donnez-moi du papier, une plume et de l'encre, dit Ludovic en s'adressant à la garde malade, je vais vous écrire une ordonnance. » Ce fut à qui trouverait le plus tôt possible les objets demandés. Le malade, qui, sur le mot « peut-être », avait reperdu l'espoir un instant conçu, se démenait dans son lit, joignant les mains et exprimant par ses gestes d'une façon plus claire qu'il n'avait fait par ses paroles cette prière « Oh, nom du Seigneur Dieu, laissez-moi donc mourir tranquille !» Mais personne ne faisait attention à l'amour cruel qu'on lui infligeait, tant tout le monde avait le désir de lui sauver la vie. Ludovic chercha une place où écrire l'ordonnance, mais tous les meubles étaient encombrés de fioles, de pots, de verres, d'assiettes, de soucoupes, de tout genre. Les paysans, voyant l'embarras du jeune homme, lui offrirent les uns leur dos, les autres leurs genoux. Ludovic trouva un dos convenable et s'en servit comme d'une table pour écrire l'ordonnance. « Envoyez chercher cela immédiatement, dit-il à la garde malade. » Il n'avait pas formulé ce désir que l'ordonnance, arrachée de ses mains, passait dans celle de 4 ou 5 assistants se disputant cette joie d'être utile à M. Gérard. Enfin, un boiteux se rendit maître du précieux papier et, clopin-clopant, partit le plus vite qu'il put. « Ma bonne dame, dit Ludovic à la garde malade, toutes les demi-heures, vous donnerez à M. Gérard une demi-cuillerée de la potion que l'on va vous rapporter. Vous entendez, pas plus ni moins souvent que toutes les demi-heures, pas plus d'une demi-cuillerée, il n'y a que ça qui puisse le sauver. »« Toutes les demi-heures, une demi-cuillerée, répéta la garde malade. Oui, c'est cela, c'est bien. Mais il faut absolument que je retourne à Paris. » Le malade poussa un soupir. Il lui semblait que le reste de son existence l'abandonna. Ludovic entendit ce soupir, ardente prière de l'homme désespéré. « Il faut que je retourne à Paris, dit-il, mais dans 3 heures, je reviendrai voir l'effet que la potion aura produit. »« Vous êtes sûr, alors, grogna le vieux médecin, que votre potion le sauvera ?»« Sûr n'est pas le mot, mon cher confrère, vous le savez mieux que personne. L'homme n'est jamais sûr de rien. Mais. Ludovic jeta encore un coup d'œil sur le mourant. Mais je l'espère, dit-il. Ce dernier mot souleva un nouveau hurrah de joie dans la foule. Le malade rassembla ses forces et, se soulevant sur son lit, 3 heures, monsieur, dit-il, tâchez de ne pas être plus longtemps. Je vous le promets, monsieur. Je compterai les minutes, dit le malade en essuyant avec son mouchoir son front couvert d'une sueur que l'on eût pu prendre pour celle de l'agonie. Sur ces mots, Ludovic sortit avec son vieux confrère, l'invitant à passer le premier, s'inclinant devant lui, lui donnant en un mot, sous les yeux de la foule, toutes les marques de respect que l'on doit à un aîné et à un supérieur. Ludovic, comme il l'avait dit, prit le chemin de Paris, cherchant cette fois un cabriolet, un fiacre, un véhicule quelconque, pour être plus tôt de retour. Le chirurgien le suivit, plein de rancune et sans desserrer les dents. Ludovic crut de son côté que ce n'était point à lui de parler le premier, même pour prendre congé de son confrère. Ce silence eût certainement duré jusqu'à leur séparation si le boiteux, qui était allé chez le pharmacien, ne fût point arrivé au-devant des deux rivaux pour leur délier la langue. Le boiteux montra à Ludovic la potion qui venait de lui être remise. « Est-ce cela, monsieur ? » demanda-t-il. « Oui, mon ami, répondit Ludovic en regardant la fiole, et dis bien à la garde-malade de suivre de point en point mon ordonnance. » Cette rencontre servit de prétexte à M. Pillois pour reprendre la parole. « Vous croyez peut-être, mon cher confrère, que je ne sais pas ce que contient cette fiole » demanda-t-il. « Pourquoi vous ferais-je cette injure, monsieur ? » demanda Ludovic. « C'est de l'hémétique que vous lui donnez là. »« En effet, c'est de l'hémétique. » Parbleu, dit M. Pillois, il faut bien que vous lui donniez de l'hémétique, puisque vous croyez à une pneumonie. Monsieur, dit froidement Ludovic, j'ai un tel respect pour votre science et pour votre expérience que je souhaiterais me tromper si ce n'était souhaiter en même temps la mort du malade. Et sur ces mots, Ludovic, n'apercevant à l'horizon aucun fiacre ni aucun cabriolet, prit à travers champs un sentier qui paraissait devoir le conduire à sa destination plus vite que ne l'eût fait la grand-route. De son côté, le vieux médecin, curieux de savoir l'effet qu'allait produire la potion sur son ami mourant, revint à Vanvres et, 2 heures et demie juste après le départ de Ludovic, il était au chevet du malade qui, cette fois, ne le vit pas s'y installer sans une certaine répugnance. Un tel empressement surprit les villageois qui le virent entrer. Il surprit bien davantage encore la garde-malade qui, habituée à attendre M. Pillois fort longtemps lorsqu'on l'appelait, fut tout étonnée de le voir accourir lorsqu'on ne le rappelait pas. Toutefois, l'ex-chirurgien-major ne se donna même pas la peine de motiver sa visite attendue. Il essaya d'interroger M. Gérard, mais celui-ci, soit défiance, soit que sa faiblesse fût augmentée, refusa de lui répondre. Alors, se retournant du côté de la garde-malade, « Eh bien, ma chère Marianne, demanda-t-il, quoi de nouveau ?»« Ah, monsieur, répondit la bonne femme, cela va bien petitement. »« Lui avez-vous administré la fameuse potion ?»« Oui, monsieur. »« Et quel effet a-t-elle produit ?»« Oh, mauvais effet, cher monsieur Pillois. » « Quel effet encore ?» demanda le vieux chirurgien en se frottant sournoisement les mains. « Tu l'as vomi, monsieur. » Ah, là, j'en étais sûr. Par bonheur, je ne suis pas responsable des suites, et s'il meurt, ce n'est pas moi qui l'aurais tué. Non, c'est vrai, dit la bonne femme, mais c'est vous qui l'aviez condamné. Parbleu, dit le chirurgien-major de la grande armée, on condamne toujours. Sans cela, si un malade mourait, ce qui arrive quelquefois, on viendrait dire au médecin, il est mort et vous ne l'aviez pas condamné. De cette façon, l'honneur de la médecine est sauvé. « Oui, reprit Marianne, et si le malade en revient, l'honneur du médecin s'en accroît. » Les récriminations du vieux chirurgien et les observations médico-philosophiques de la garde-malade durèrent une demi-heure. Au bout de cette demi-heure, Ludovic arriva. Il entra juste au moment où M. Pillois, sans pitié pour son meilleur ami, la science est comme Saturne, elle dévore ses enfants, Il entra, disons-nous, au moment où M. Pillois, voyant le malade rendre presque immédiatement la cuillerée d'eau émétisée qu'il venait de prendre, disait, en regardant M. Gérard, dont la figure contractée exprimait la souffrance, « Décidément, il est perdu ». Ludovic entendit ces mots, mais n'y faisant aucune attention, il alla droit au malade, le regarda attentivement, puis lui prit le pouls. Au bout d'une minute, minute pleine d'anxiété pour ce brave cœur, pleine d'inquiétude d'une toute autre nature pour le vieux chirurgien, au bout d'une minute, il releva le front. Son visage, examiné à la fois par le médecin, par la garde-malade et par le mourant, exprimait la satisfaction la plus complète. « Ah, cela va bien, dit-il. « Comment cela va bien ?» demanda M. Pillois, stupéfait. « Oui, le pouls est relevé. Ah, et c'est à cela que vous jugez qu'il va mieux ?»« Certainement. » « Mais, malheureux jeune homme, il a vomi !»«
Il a vomi ?» répéta Ludovic en regardant Marianne.
« Vous voyez bien qu'il est perdu !»«
Au contraire, dit tranquillement Ludovic, s'il a vomi, il est sauvé. »
« Vous répondez de la vie de mon meilleur ami ?» reprit M. Pillois, furieux.
« Oui, monsieur, dit Ludovic, et sur ma tête. »
Le vieux médecin prit son chapeau et sortit avec la mine d'un algébriste auquel on soutient que deux et deux font cinq. Ludovic écrivit une autre ordonnance et la remit à la garde-malade.
« Madame, lui dit-il, j'ai pris la responsabilité. Vous savez ce que cela signifie en termes de médecine. Que mes ordonnances soient exécutées à la lettre, que l'on n'en suive pas d'autres, et M. Gérard est sauvé. »
Le moribond poussa un cri de joie, saisit la main du jeune homme et, avant que celui-ci eût pu s'en défendre, y appliqua ses lèvres. Mais presque aussitôt, sa figure parut se décomposer sous l'influence d'une indicible terreur. « Et le moine, murmura-t-il, en retombant écrasé sur son traversin. »